Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Gao, Tombouctou, même heure à Bamako. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Voici les grandes lignes. Les populations de Gao et Tombouctou sont dans la piscose après l'attaque d'hier contre le bateau Tombouctou. Certains parents sont toujours sans nouvelles de leurs proches. À Bamako, c'est nous, un accident entre une sotrama et un camion de transport ce matin a fait 14 blessés. L'incivisme est l'une des causes dénoncées par les populations. Fin du projet réponse de la crise causée par la COVID-19, ses responsables se félicitent des 2 ans d'activité du projet qui a œuvré dans 8 régions du pays dans la prévention et la lutte contre la pandémie. Le développement de ce sommaire dans un instant avec Juliette Koulibaly, Salim Djouara est à la technique. Un sentiment de peur et de crainte règne à Gao et Tombouctou au lendemain de l'attaque du bateau de la Comanaf, compagnie malienne de navigation fluviale. Des parents sont entre inquiétude et angoisse car ils n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches après l'incident. Le bateau quittait Gao pour Mopti en passant par Tombouctou. Lale Tangara.
Moussa Abdoulaye Yattara avait sa tante et ses enfants dans ce bateau. Ce natif de Gao d'une 30aine d'années est au chevet de sa tante blessée lors de l'attaque du bateau. Il regrette de n'avoir aucune information sur ses cousins.
J'étais ce matin à l'hôpital chez ma tante, plus ses 2 filles et un garçon. Malheureusement, sa fille quand même a été blessée avec elle-même, mais les 2 garçons... Et jusqu'à présent, on n'a pas vu leur cadavre. On ne sait pas s'ils sont dans l'eau ou bien je ne sais pas quoi.
Dissuader les communautés du Nord de se mouvoir. Tel est l'objectif de ces attaques contre les transports en commun, notamment le bateau. Cette déclaration est de Dr Ali Tunkara. L'analyste sécuritaire avance des propositions sur comment protéger les transports en commun.
Le seul fait d'escorter le bateau suffirait difficilement. Donc il faut creuser davantage dans cette capacité qu'ont les communautés en termes de fournir de renseignement et de l'information. Et pour ce faire, l'État doit davantage paraître comme utile aux élus communautés.
Dans les régions du Nord, les populations demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires afin que les citoyens puissent continuer à voyager en toute sécurité. Pour un rappel, selon un bilan officiel, 49 civils et 15 militaires ont été tués durant l'attaque du bateau.
Des habitants de Koutiala, Kadiolo, Bamako, Bafoulabé et Massina ne cachent pas leur désolation après l'attaque du bateau de la Comanaf. Ils prient et compatissent à la mémoire des victimes. Dans la rubrique, on en parle.
Verser le sang des Maliens, c'est comme pour tous les Maliens. Paix à l'âme des disparus, que Dieu nous en garde.
À Kadiolo, les drapeaux de tous les services sont en berne. Cela prouve que l'hommage aux victimes est respecté. C'est une affaire qui nous concerne tous, que Dieu les pardonne.
J'ai appris la nouvelle à Bamako, ça ne m'a pas plu et ce n'est pas facile. Mais je salue l'armée malienne, courage à elle.
Je compatis à la douleur du Tout-Puissant de les accueillir dans son paradis. Prends pour établissement aux blessés. Nous qui sommes les mères, nos cœurs sont effrayés aujourd'hui et meurtris. Je demande à l'autorité de prendre beaucoup de dispositions.
Mes condoléances. Je demande aux populations de collaborer, d'aider nos braves soldats.
Après le double attaque hier contre le bateau Tombouctou et une position de l'armée à Bamba, le camp militaire de Gao a été attaqué tôt ce matin. Au même moment, un véhicule de Médecins sans frontières a été visé mardi dernier par des tirs des hommes armés à Hombouri. Le point avec Draman Maïga.
Dans une note sur leur page Facebook, l'armée annonce que c'est un kamikaze qui a visé le camp. Il n'y a aucun bilan officiel pour le moment, mais selon le poste, les forces de l'ordre ont riposté à l'attaque. Des sources à Gao indiquent que des tirs ont retenti au niveau du camp cet après-midi. Suite à cette forte détonation contre le camp Firhoun de Gao, tous les minibus en provenance d'Ansongo ont été contraints de retourner ce matin, selon des sources. D'après les mêmes sources, Gao est en état d'alerte avec une sécurisation accrue des forces de défense et de sécurité. Aucun véhicule ne rentre ni sort de la ville, conclut-elle. Au centre du pays, une femme tuée et 2 autres personnes blessées, dont une femme enceinte. C'est le bilan d'une attaque contre un véhicule de Médecins sans frontières ce mardi 5 septembre. Selon le communiqué du MSF, le véhicule transportait la femme enceinte de Hombouri vers Douanza quand il a essuyé des tirs à environ 2 km de Dala.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Au Mali, le taux d'alphabétisation est en deçà de 40% selon une étude menée en 2018. Ce chiffre est donné par la Direction de l'éducation non formelle et des langues nationales. C'est dans ce cadre qu'est célébrée au Mali ce vendredi 8 septembre la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, le thème est « L'alphabétisation au service du peuple pour promouvoir l'utilisation de nos langues nationales ». À l'intérieur du pays, des populations reconnaissent l'importance de l'alphabétisation. Le point avec Khalifa Goïta.
Cette journée est célébrée au Mali à un moment où les défis de l'alphabétisation sont énormes. Cependant, la direction de l'éducation non formelle et des langues nationales rassure que des initiatives sont en cours dans ce sens pour répondre aux attentes. Madame Sila Fatmata Amassissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales.
Les couches les plus touchées sont les couches rurales qui ont moins de chances de fréquenter le système formel. C'est pourquoi, à travers nos centres d'apprentissage féminin, nous sommes en train d'œuvrer pour qu'il y ait un focus sur l'alphabétisation des femmes.
À Kokribozo, dans le cercle de Massina, des habitants témoignent de l'importance de l'alphabétisation. Ceux-ci souhaitent toujours promouvoir leur petit métier avec cet apprentissage.
Nous apprécions beaucoup l'alphabétisation. Parmi nous, il y a des vendeuses de riz, d'oignons, et il n'est pas facile de faire ce travail sans être alphabétisé.
J'ai fait l'alphabétisation. Je gère beaucoup de mes activités grâce à l'alphabétisation.
Comme à Kokribozo, d'autres localités du pays reconnaissent l'importance de l'alphabétisation. Rappelons que depuis 1967, la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée dans le monde.
Comme annoncé au sommaire, 14 blessés, dont 7 cas graves, c'est le bilan d'un accident de route survenu ce matin à Sénou entre une Sotrama et un camion de transport. Selon les responsables de la protection civile, les victimes ont été évacuées à l'hôpital du Mali. Selon les habitants de Sénou, ces accidents sont causés par l'incivisme de certains et le rétrécissement des routes. Écoutons leur réaction au micro de Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Ce que je constate d'abord, sur la route de Sénou, il y a un excès de vitesse. Et aussi, les routes sont en mauvais état. Pour les gros porteurs, normalement, il doit y avoir un temps spécialement. Par exemple, il peut commencer à circuler vers 22h, 23h.
La route de Sénou est rétrécie. Les conducteurs ne prennent pas cela en compte. C'est pourquoi il y a toujours des dégâts. Ils doivent faire plus attention.
C'est juste de l'incivisme. Quand je dis de l'incivisme, le non-respect des codes de la route. Hormis cela, nous n'avons pas assez de routes.
Les routes sont de mauvaise qualité, c'est vrai. Mais nous, les usagers, sont aussi tout le temps pressés.
Le projet réponse de la crise causée par la COVID-19 a procédé ce matin au bilan de ses 2 ans de travaux. Selon ses responsables, au cours de ses 24 mois d'activité, le projet a œuvré dans 8 régions du pays en contribuant à la prévention et à la lutte contre la pandémie. Il était financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA par l'Union européenne. Sylvia Severi, chef d'unité de coopération de l'Union européenne au Mali, est au micro de Sita Sidibé.
Ces 2 années de travaux ont permis en particulier de renforcer les capacités du gouvernement et des services qui ont été concernés pour enrayer la pandémie. Il y a eu aussi des activités qui ont renforcé la résilience des ménages les plus vulnérables et également une planification d'outils qui a permis de prendre en charge et de dépister des cas de maladie, de les prendre en charge. Et je pense qu'on a des résultats tangibles, on a des résultats concrets, on a des populations qui sont plus résilientes. On a des capacités qui ont été renforcées à tous les niveaux.
À présent, la rétrospective de l'actualité marquant la semaine avec Halima Yatara.
Nous commençons avec les résolutions du sommet de Kenya qui prévoit d'intégrer les agendas et les instruments relatifs au climat prochainement. Il s'agit d'employer la biodiversité et les océans dans les plans et les processus nationaux. Cela afin de garantir la résilience des communautés locales, selon les dirigeants africains. Autre actualité, à moins d'un mois de la rentrée scolaire prévue le 2 octobre 2023-2024, les déplacés qui sont logés dans les établissements scolaires dans la ville de Bandiagara se soucient de leur cas. Les responsables pédagogiques sont à pied d'œuvre pour pallier la situation. Terminons par la Semaine nationale de la sécurité routière. Selon Madame la ministre des Infrastructures et des Transports, la multiplication des accidents s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'excès de vitesse, la circulation des véhicules de transport en commun à des aires avancées et l'incivisme.
Sport, football, les Aigles du Mali jouent ce soir à 19h au stade du 26 mars contre le Soudan du Sud. Ce match rentre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Rappelons que les Aigles occupent la première place du groupe G avec 12 points. Tout à l'heure, vous aurez le grand dialogue avec Sekou Gadjigo. Bonsoir Sekou, quel sera le thème abordé ce soir?
Bonsoir Juliette Koulibaly, le grand dialogue d'aujourd'hui parle de sport, décès de Salif Keïta, que retenir de la Panthère Noire. Comme invité, nous avons Souleymane Bobo Tunkara et Drissa Niono, tous deux journalistes sportifs.
Bon débat et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Salim Djouara assurait la technique. Comment préserver la croissance économique, c'est le thème de notre magazine Echo. Et le Mali, en 2022, a connu une croissance résiliente du produit intérieur brut PIB, une croissance estimée à 1,8% selon le rapport de la Banque mondiale publié le 26 juillet dernier. Plus de détails dans ce magazine réalisé par Adama Amadou Aïdara avec le concours de notre correspondant à Koutiala.
L'économie malienne a fait montre d'une certaine résilience en 2022, avec une croissance qui a été relativement élevée au regard de tous les chocs que le pays a pu enregistrer en 2022.
Vous venez d'entendre Eakim Kapo, économiste à la Banque mondiale. Ses propos sont corroborés par l'économiste malien Ibrahim Marikou. Selon lui, malgré cet exploit, des secteurs doivent être modernisés pour plus de gains.
Nous sommes à une croissance de 4%, qui est extrêmement une bonne chose pour un pays comme le Mali, en pleine crise, et un pays enclavé. Donc, les facteurs qui font en sorte que nous arrivons à tenir cela, effectivement, il y a le secteur des télécommunications, le secteur des mines, mais il faut travailler davantage vraiment à diversifier les secteurs stratégiques dans notre économie, tels que l'agriculture, l'élevage, de la pêche, moderniser notre économie, à augmenter le commerce, les exportations qui sont extrêmement importantes, sinon à long terme, c'est intenable.
Ce rapport de la Banque mondiale sur la santé économique du Mali fait également cas de l'impact des sanctions de la CEDEAO sur le pays. En marge, le document mentionne la production du coton qui a diminué de près de 30% en raison de la destruction des champs par les insectes. Et Hakim Kapo, économiste à la Banque mondiale.
Les sanctions ont eu un certain impact parce que sans elles, la croissance aurait été certainement plus forte. Certaines activités comme le commerce, nous avions observé un certain nombre d'impacts. Mais il n'y a pas que les sanctions. Nous sommes dans un contexte global caractérisé par une inflation. En 2022, l'invasion de criquets a eu, malheureusement, à limiter un peu la production agricole de coton.
À Koutiala, une zone de production de coton par excellence, les producteurs ont su prendre des mesures en amont pour contrer les insectes. C'est du moins ce qu'indique Yacouba Traoré, président de la Fédération des cotonculteurs de Koutiala.
L'année dernière, les criquets ont détruit nos productions cotonnières. C'est pourquoi cette année, il y a des cultivateurs qui étaient réticents. Mais la CMDT et l'État nous ont amené des insecticides qui ont pu pallier le problème. Sinon, cette année, les cultivateurs ont vraiment travaillé. C'est la sécheresse qui nous a fatigués un moment, mais c'est passé. On a eu de l'engrais à temps. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est la montée des eaux.
Cette étude de la Banque mondiale est apparue à un moment où l'insécurité freine l'investissement de certains partenaires dans le pays. Les douanes et l'impôt servent aussi dans ce cas de pilier pour la stabilité économique. Selon l'économiste Ibrahim Marikou, les projets étatiques doivent s'accentuer sur le potentiel local.
Notre budget est financé à hauteur de 30% par l'extérieur. Donc du coup, l'impôt et la douane sont insuffisants. L'objectif, c'est que les partenaires viennent. Mais si les partenaires sont réticents, parce que nous sommes en insécurité, c'est sûr. Donc du coup, l'État doit encourager l'entrepreneuriat local pour faire en sorte que plus ou moins on ait des champions qui peut tenir l'économie. Nous avons de la potentialité qui est un facteur énorme qu'il faut analyser.
Selon des économistes, si des mesures idoines sont prises par rapport aux productions du coton, on peut espérer une meilleure croissance en 2023.